Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition consacrée à la Libye. Après 8 ans de guerre civile, la Libye est plus que jamais le lieu d'affrontements d'organisations se revendiquant d'un islam radical. Des principaux acteurs régionaux, Turquie, Égypte, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis et de puissance, Italie, France et Russie, chacun ayant des intérêts à défendre, regard sur les conditions d'une sortie de crise dans un pays à la situation géopolitique bien plus complexe que celle qui a prévalu en Syrie. Nos invités, Pierre Vermeren, professeur d'histoire du Maghreb contemporain à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de Dissidents du Maghreb paru aux éditions Belin. Bonjour.
Bonjour.
Et en direct de France Bleu Provence à Aix-en-Provence, Ali Ben Saad, professeur des universités à l'Institut français de géopolitique, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Bonjour.
Bonjour.
Et François Burga, islamologue et politologue, directeur émérite de recherche au CNRS et à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, auteur de Comprendre l'islam politique aux éditions La Découverte. Bonjour.
Bonjour.
D'une superficie 3 fois plus étendue que la France, la Libye possède une population 10 fois inférieure, 6 millions d'habitants environ, des habitants qui sont potentiellement les plus riches d'Afrique, le pays recelant des réserves prouvées de pétrole de l'ordre de 50 milliards de barils, ce qui classe la Libye au 8e rang mondial juste derrière la Russie. 3 pays ont des intérêts très importants dans l'exploration et la production de pétrole libyen, l'Italie avec Eni, la France avec Total et depuis 2018 la Russie avec Rosneft. Les Italiens considèrent généralement la Libye comme leur chasse gardée, compte tenu de leur histoire commune et de la proximité des côtes italiennes. Alors, 8 ans après l'intervention occidentale qui a débarrassé le pays d'un dictateur sanguinaire en la personne du colonel Kadhafi, la question qui plus que jamais se pose aujourd'hui est celle de savoir si la Libye est en mesure de mettre fin à la guerre civile qui prévaut et qui connaît un nouvel élan depuis le mois d'avril dernier. Cette guerre civile met en scène 2 hommes, Fayez al-Sarra, le chef du gouvernement du Union nationale, et Khalifa Haftar, le chef de son autoproclamée armée nationale libyenne, l'homme fort de l'Est libyen, qui a entrepris il y a quelques semaines de conquérir Tripoli, la capitale. La Libye est entrée dans sa 3e guerre civile depuis 2011. L'échec est cuisant pour une communauté internationale qui a fait preuve de son impuissance et de ses divisions. L'offensive du maréchal Haftar ramène-t-elle la Libye 5 ans en arrière? Que dire de la situation aujourd'hui et quelle analyse de terrain? Est-ce qu'il y a risque d'embrasement? François Burga.
Est-ce que nous sommes 5 ans en arrière? Oui et non. Non, parce que l'un des acteurs qui nous tient à cœur, la France, est dans une posture radicalement opposée à celle qu'elle avait en septembre 2011. Non, parce que, et on y viendra, les clivages internes en Libye sont vraisemblablement un peu plus complexe que simplement l'état profond pro-Kadhafi qui essaierait de se débarrasser des révolutionnaires. Mais oui, quand même, l'image n'est pas impertinente parce que cette crise libyenne, elle est en train de s'internationaliser comme la crise syrienne, au bout de quelques mois, elle n'avait de syrienne que le nom. La crise libyenne, elle est en train de passer majoritairement dans les mains des acteurs internationaux et les acteurs internationaux sont bel et bien répartis des 2 côtés d'une ligne de ceux qui font une appréciation négative ou positive de ce qui s'est passé dans les printemps arabes. On a effectivement tous ceux qui pensent que une ouverture politique ne peut amener que de mauvaises choses et notamment des acteurs qui ne soient pas de la bonne couleur. Et puis on a de l'autre côté ceux qui croient qu'une solution politique ne peut se faire que sur la base d'institutions qui ont un certain degré de consensus et qui tournent donc le dos à l'autoritarisme. Donc dans un camp, on a les Émirats, on les oublie parfois dans les analyses, moi je les mets en tête de gondole, on a l'Arabie, ils ont agi avec des moyens financiers, ils ont cherché à corrompre les partenaires de Fayez al-Sarraj. On a l'Égypte. L'Égypte, on pourrait dire que c'est la première victoire de la stratégie des Émirats et de l'Arabie. C'est le régime qu'ils ont contribué à faire naître. Et évidemment, il leur est reconnaissant, il est sur la même ligne. Et du côté occidental, eh bien, on a la Russie qui est dans son rôle, le même que dans la crise syrienne. Mais on a les États-Unis. Il faut rappeler, on le dit pas assez souvent, que Haftar, c'est l'homme de la CIA. C'est un homme qui, depuis 1987, lorsque les armées de Kadhafi ont été défaites à Wadi Doum, dans le nord du Tchad, a été recruté par la CIA pour lutter contre Kadhafi, ce qui est une partie de l'équation qui rend difficile sa popularité en Libye actuellement. Et puis on a la France, hein, de plus en plus explicitement. La France a confirmé qu'elle ne traitait pas Haftar comme l'ingérence militaire illégitime dans un processus politique. Alors de l'autre côté, vous l'avez dit, on a la Turquie et le Qatar, mais très affaiblis pour des raisons de politique intérieure. Le Qatar notamment parce qu'il est la cible d'un embargo très dur de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Et puis on a l'Italie parce qu'elle veut jouer une partition différente de celle de la France. Mais on a, et ça sera ma conclusion, on n'a pas l'ONU. L'ONU n'est pas dans le camp du gouvernement de Tripoli, mais l'ONU est dans le camp du multilatéralisme. Et le paradoxe de l'attitude d'un acteur tel que l'acteur français qui reproche très fréquemment à Trump de bafouer les exigences du multilatéralisme, c'est que pour le coup, nous avons cautionné une offensive militaire qui s'est produite le jour même où le secrétaire général des Nations Unies arrivait à Tripoli pour préparer l'étape suivante du processus politique. Donc on est bien revenu sur une ligne qui ressemble à celle qui a divisé le paysage politique arabe et mondial au début de 2011.
Pierre Vermeren, en studio à Paris, un commentaire sur ce que vient de dire François Burga, et après ça, bien sûr, je vous passerai la parole à Ali Ben Saad.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Évidemment, on a en fait un conflit qui est particulièrement difficile à lire parce que, en fait, c'est un emboîtement de conflits. D'abord, évidemment, le conflit intralibyen, qu'on peut résumer en deux camps, mais qui, évidemment, c'est pas si simple que ça. On a, du point de vue de la France, puisqu'on parle sur une radio publique française, on a une division de l'acteur français. Mmh. En réalité, on a une division entre le ministère de la Défense et les Affaires étrangères, on a donc une division à l'intérieur de l'appareil d'État français. On a une division entre Européens. L'Italie et la France aurait plutôt tendance sur le terrain à soutenir Haftar et dans la diplomatie à soutenir Sarraj. Donc on a cette division puisque l'Italie, elle, soutient clairement Sarraj. On a une division des puissances internationales, on l'a dit, d'un côté la Turquie, de l'autre... la Russie, par exemple, il faut dire que les grandes puissances internationales ont plutôt apparemment l'air de soutenir Sarraj, même si officiellement, bien sûr, elles soutiennent quand même le processus politique via l'ONU. Et puis, on a une division à l'intérieur du monde musulman, avec les puissances que François Burga a énoncées, le rôle très important de l'Égypte. Bon, il a oublié de mentionner, je pense pas que ce soit un oubli, mais l'Algérie, qui elle-même, évidemment, est très intéressée par ces affaires. Et donc, on a un emboîtement de conflits, de divisions, qui font que, effectivement, depuis 5 ans, le changement principal, c'est l'internationalisation. Cependant, la nouveauté, c'est pas que les acteurs de l'islam politique et notamment du djihadisme aient disparu, mais disons que dans les deux tiers apparemment de la Libye que contrôle Haftar, ils ont quand même été plus ou moins vaincus, en tout cas pour les petites poches méditerranéennes de l'État islamique. On imagine aussi que les frères musulmans sont pourchassés dans le camp Haftar, puisque les Émirats Arabes Unis et les Égypte doivent les pousser à faire le nettoyage, entre guillemets. Je note qu'une attaque de l'État islamique, ou en tout cas présentée comme telle, sur une caserne du Sud a eu lieu il y a quelques jours, avec 9 soldats d'Haftar qui auraient été tués. Et puis en face, on a donc ce camp très complexe de Tripoli. C'est quand même un gouvernement qui a été élu, un parlement compliqué. Bien sûr, les frères musulmans, d'autres acteurs de l'islam politique, les milices aussi, qui sont très nombreuses. On dit que le gouvernement Sarraj est très isolé et que les milices dans Tripoli, qui est quand même presque la moitié de la population du pays, ou en tout cas un gros tiers, se partagent le territoire. Donc on voit que les acteurs violents ont été soit d'un côté éradiqués ou contenus, et de l'autre, évidemment, ils sont pas opérationnels, mais ils sont quand même là. Voilà. Donc on a une fausse simplification de la carte et une intervention ou des interventions internationales majeures et diverses.
Alors on viendra bien sûr sur tous ces points et le rôle de chacun, le rôle de la France, le rôle de la Russie, le hasard du calendrier entre guillemets, Ali Ben Saad, avec les troubles en Algérie et puis l'offensive du maréchal Haftar. Très rapidement, pour en revenir à cette offensive qui a donc démarré au début du mois d'avril, est-ce que l'on peut dire que le maréchal Haftar a été imprudent, et qu'est-ce que l'attaque change dans le processus de paix?
En fait, oui, je pense que l'enlisement et l'échec étaient prévisibles, mais je pense qu'en même temps, ce qui a joué dans cet enlisement prévisible, c'est à la fois le volontarisme, si je peux dire, géopolitique, des puissances régionales qui soutiennent Haftar, mais le véritable maître d'ouvrage, ce sont les puissances régionales. Je rappellerai brièvement que quand même, une semaine avant l'attaque, Haftar a été reçu, fait très rare, par le roi lui-même d'Arabie Saoudite, mais avec tout son aéropage sécuritaire, diplomatique, etc. Donc en fait, c'était comme une réunion d'état-major. Sisi vient de recevoir pour la deuxième fois Haftar. Moi, je prévois malheureusement une aggravation et une véritable régionalisation du conflit. Alors, je disais qu'effectivement, il y a eu une sorte d'aveuglement et de volontarisme géopolitique et de choix idéologique qui présageait de l'enlisement. Je crois que tous les acteurs internationaux, Haftar peut-être lui-même, par aveuglement d'ambition personnelle, ne réalisaient pas à quel degré le personnage de Haftar était rejeté. Il n'a aucun rôle actuellement, on en discutera tout à l'heure, l'islam politique, c'est un très faux alibi. Donc je pense aussi que la situation algérienne a joué pour beaucoup. Je pense que l'attaque a été préparée de longue durée, mais qu'elle a été très précipitée en raison des événements en Algérie. Non pas seulement étant parce que ça offrait une opportunité et un boulevard aux autres puissances régionales et à Haftar, mais je pense que les puissances régionales avaient intérêt à vite se positionner dans le voisinage de l'Algérie, dans la proximité géopolitique, pour peser sur la transition, non pas pour intervenir ou perturber l'Algérie. Vous savez, les Émirats ont le relais dans l'ancien pouvoir et dans le nouvel ancien pouvoir, et il était très important pour justement ces puissances et Haftar de se positionner. Je rappelle qu'il y a eu de grandes discussions à l'intérieur de cet axe, y compris au sein du pouvoir saoudien, quelle réaction avoir à l'égard de ce qui se passait en Algérie et au Soudan. Et donc, ça a été déterminant. Alors, je pense aussi que on est revenu au-delà de 2014, parce que en 2014, on cherchait à construire une issue politique. Celle-ci est définitivement enterrée. Parce que, en fait, je crois que Haftar, chaque fois qu'il a été acculé, s'est vite empressé de renverser la table. Mais là, on était, en fait, à l'issue ultime. Vous savez qu'il a fait une semaine avant que se réunissent tout le prisme politique de la Libye, avec de nouveaux acteurs qui n'ont jamais été associés. Et je pense qu'il faut saluer le travail qui a été fait par Rassane Salamé, qui a fait vraiment un travail de proximité, qui a fait participer des acteurs, qui est allé jusqu'aux profondeurs, en fait, des structures sociales libyennes. Et cette attaque, elle s'apparente à un véritable coup d'État. Et c'est ce qui va compliquer la situation, c'est que, en fait, il n'y a plus d'issue politique. Je pense que les puissances régionales qui soutenaient Haftar ne voudront pas accepter la réalité d'un échec de Haftar, qui voudrait aussi dire sa disqualification définitive. Et n'ayant pas un autre homme comme alternatif, ces puissances régionales vont pousser à une radicalisation. La radicalisation, on la voit par le type d'armement qui a été utilisé, donc dernièrement, les drones militarisés, les populations qu'on commence à toucher, etc., etc. Donc effectivement, la situation se complique. Et elle se complique d'autant plus que Haftar, et c'est ça le changement par rapport à 2014, n'a pas les mêmes soutiens qu'il avait. Je rappelle une petite anecdote historique. Il y a 5 ans, exactement jour pour jour, il y a eu un simulacre de coup d'État de la part de Haftar qui déclare destituer le gouvernement, le Parlement, et mobiliser des forces. C'était lesquelles ? C'était les forces de Zintan. Or, aujourd'hui, ces forces de Zintan ne sont pas dans son camp. Elles ne sont pas dans son camp, et c'est ce qui me fait dire qu'il y a eu la précipitation, parce que les notables et tout le monde s'étaient engagés à le soutenir. Ça fait des mois que les Émirats, à travers des commerçants, etc., font un travail de retournement exceptionnel. Mais en fait, ce retournement des notabilités Zintan n'a pas eu son prolongement militaire. Parce que, justement, je pense que tous les retournements qui se sont faits au profit des Émirats et des Saoudiens, la ligne rouge pour eux, c'était que ça soit reconverti en soutien de Haftar. Et c'est ça que les puissances internationales et régionales qui ne connaissent pas le terrain ou qui ne veulent pas le voir ne peuvent pas se résoudre à cette réalité du profond rejet de Haftar qui pouvait être un des éléments de la solution, mais jamais la solution. Il n'est même plus un des éléments de situation.
Et parallèlement, Ali Ben Saad évoquait l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative à Haftar. Pierre Vermeeren, donc le maréchal Haftar était au Caire cette semaine, on l'a dit pour la deuxième fois depuis ces quelques derniers mois. Fayez al-Sarraj était, lui, en tournée européenne et il est passé en France, on en parlera. La question qui se pose, c'est finalement... Pourquoi est-ce que Haftar a mené cette opération sur Tripoli? Est-ce que un mois après le début de l'offensive, il peut encore gagner?
Écoutez, tout est possible. Il était aussi à Moscou il y a 15 jours où, paraît-il, Poutine lui a fourni des hélicoptères de guerre. Donc c'est vrai que s'il y a des livraisons de matériel très lourd, des avions, des Émirats, des hélicoptères russes, du matériel divers qui est fourni par toutes les plus grandes puissances de la planète, hein, des drones chinois via les Émirats, etc.
Alors qu'il y a un embargo sur les armes...
Ils peuvent mener une véritable guerre, et alors là, effectivement, comme dit Ali, le processus politique est mort et on va rentrer dans une guerre terrible, qui d'autant plus que ça risque d'être une guerre urbaine. À mon avis, les Algériens n'en veulent pas du tout, les Libyens non plus, parce que quand même, il faut pas oublier qu'il y a eu juste le printemps de 2011, ils se sont débarrassés de Kadhafi au terme d'une guerre civile qui a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Ils ont sous les yeux la Tunisie. Alors bien sûr, la Tunisie, ça les fait peut-être pas rêver parce qu'elle est très pauvre, mais ils voient bien qu'il y a une autre solution qui est possible, une solution politique, une solution qu'on peut qualifier de démocratique en dépit de toutes ses imperfections. Et en face, c'est quoi? C'est le retour d'une sorte de Kadhafi bis, affaibli, vieillissant, sans les utopies du colonel des années 70. Et puis, il y a le modèle très froid et très brutal qu'incarne le général Sissi. Et j'imagine qu'à Tripoli, ce modèle militaro-autoritaire très brutal ne fait pas rêver. Et donc, c'est pour ça qu'il risque d'y avoir des résistances qui viendront pas seulement de l'appui de puissances extérieures ou de la résistance des Algériens, mais qui pourraient aussi venir de la population. Misrata n'est pas encore entré apparemment directement dans la danse, mais peut-être. Donc tout se met en place pour une guerre. On comprend que les diplomates européens et internationaux s'activent, mais en même temps, la perspective est assez terrifiante parce que justement, si en face le camp refuse le fait que son pion, finalement, Haftar, ne soit pas soutenu, on va à la guerre. Et pour l'instant, il y a eu une ligne de front, il y a eu 400 morts, 50 000 déplacés, peut-être plus, je ne sais pas. Mais ça pourrait être évidemment beaucoup plus. Et là, la perspective n'est pas très encourageante, c'est le moins qu'on puisse dire.
François Burga, juste quelques mots peut-être.
Moi, je voudrais bien un peu rajouter quelque chose sur ça. Moi, j'ai l'impression que cet axe Arabie Saoudite, Émirats, Égypte et Israël, États-Unis, il est beaucoup plus structuré qu'en 2014. C'est pour ça qu'il a une plus large assise internationale, d'où son volontarisme. Et je pense que cet axe-là n'est pas prêt de renoncer. D'ailleurs, l'alignement des États-Unis en dernier vient de la pression justement de cet axe-là. Actuellement, la Libye est en fait un élément de cette restauration autoritaire que sont en train de faire ces pays-là. Et je les comparerais presque, cet axe-là, à la situation qu'il y avait en Union soviétique avant l'invasion de l'Afghanistan. Le fait de se sentir cerné, cette phobie en fait des dissidences démocratiques qui fait qu'il y a eu une volonté de bouleverser le rapport de force internationale. C'est ce qui s'est fait en Libye. La grosse erreur, si je peux dire, elle est là, dans ce volontarisme des pays qui vont avoir une plus grande responsabilité que l'OTAN en 2011. Je vais vous dire une chose, une victoire militaire est impossible, non seulement parce que Haftar n'a pas l'État égyptien avec sa profondeur telle que Sissi, etc. Non seulement parce qu'on ne peut pas, ni la démocratie, ni l'État le plaquer sur un pays, mais en Libye, il y a une fragmentation avec des dynamiques locales très forte. Donc la résistance sera inévitable, durable et inexpugnable. C'est pour ça que je dis que, en fait, les fractures de la Libye ont été encore plus creusées qu'en 2014 et que Haftar ne fait plus partie de la solution.
On y reviendra et on poursuivra dans la deuxième partie, si vous le voulez bien, Ali Ben Saad. On retrouve également Pierre Vermeren et François Burga après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la Libye. Nous retrouvons nos invités, Pierre Vermeren, professeur d'histoire du Maghreb contemporain à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur de Dissidents du Maghreb aux éditions Belin, et depuis les studios de nos confrères de France Bleu Provence à Aix-en-Provence, Ali Ben Saad, professeur des universités à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, et François Burga, islamologue et politologue, directeur émérite de recherche au CNRS et à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, auteur de Comprendre l'islam politique aux éditions La Découverte. Beaucoup de choses, bien sûr, ont été dites dans la première partie de l'émission, mais Ali Ben Saad, vous avez terminé votre propos en évoquant les fractures que connaît la Libye aujourd'hui et qui sont, selon ce que vous disiez, plus importantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier. Et puis, cette victoire militaire impossible aujourd'hui, suite au début de l'intervention et de l'opération menée par le maréchal Haftar sur Tripoli. François Burga, la question de l'islamisme se pose aussi de façon très prégnante dans ce rapport de force qui oppose Fayaz Serraj au maréchal Haftar.
Oui, bien sûr, les éléments de langage du camp Haftar relèvent de la propagande et pas de la réalité. Il n'y a pas les islamistes d'un côté et les laïcs ou les libéraux de l'autre. En revanche, bien sûr, on peut s'interroger, comme on le fait dans l'Algérie d'aujourd'hui, il y a une phase qui est consensuelle dans une société, c'est établir la légitimité d'un pouvoir central. Et puis après, on s'interroge sur la couleur politique et les choix. On n'en est pas là en Libye. En Libye, on a un peu vite dit, tiens, les islamistes sont peu présents dans le paysage. Non, moi j'ai écrit à cette époque, le pouvoir en Libye et ne s'est pas réparti entre des familles politiques, il est tombé à l'échelon local, à l'échelon municipal. Donc la légitimité politique, elle est passée de Kadhafi à mon voisin, quelle que soit sa couleur politique. Donc pour l'instant, la mobilisation politique s'opère en Libye très largement sur des bases régionalistes et localistes. Après, peut-être que mon voisin de studio nous dira que les islamistes ont disparu en Libye, et moi je lui dirais, je suis content d'entendre une telle analyse, parce que en tant que chercheur, ça fait 40 ans que certains, la majorité de mes collègues m'expliquent que les islamistes ont disparu sur leur terrain d'étude, et puis après viennent d'autres étapes, notamment des élections qui permettent de rétablir un petit peu la complexité. La Libye, du point de vue de l'islamisme, n'est pas du tout sur la planète Mars, elle est entre l'Égypte et la Tunisie, deux pays où les urnes des printemps arabes ont donné une majorité au courant de l'islam politique.
Alors, je ne dis pas que les islamistes ont disparu. Je dis qu'il y a une mystification sur leur poids qui n'est pas celui que vend Haftar, ni celui que voudraient croire leurs partisans. Et justement, je pense que la question de l'islam politique et de l'usage de la mystification autour de l'islam politique, c'est par ça que Haftar veut se légitimer, c'est par cela que les puissances régionales qui le soutiennent veulent le vendre, et c'est par cela que la France justifie son basculement et le très lourd prix politique qu'elle est en train de payer. Moi, je dis pas que les islamistes ont disparu, mais on a toujours dit que Tripoli était une ville tenue par les milices islamistes. Or, ce sont celles-là même qui se sont opposées à la venue de Serraj. Et puis, petit à petit, elles ont été toutes déboutées. Même le fameux Belhadj qui a mystifié beaucoup de journalistes, de chercheurs, etc. Dans la réalité du terrain, il a été battu en 2 heures et qu'en fait, les milices n'ont jamais été puissantes par elles-mêmes. Elles n'ont été puissantes que par les alliances politique locale, les soutiens extérieurs. Donc je disais, Haftar attaque au moment où justement Tripoli s'est complètement expurgé de ses milices islamistes, au moment même où les frères musulmans sont actuellement très affaiblis, 150 de leurs cadres ont quitté le parti en une journée, c'est un parti de grands commerçants, essentiellement, le représentant des frères musulmans au sein du conseil présidentiel a jugé bon de démissionner, parce qu'il ne sent plus d'avenir de ce côté-là. Alors, ils ont été très loin dans les concessions. Je vous rappelle que lors des accords de Srerat, Marzoum, le représentant des Frères musulmans qui avait provisoirement dirigé la délégation, il a été jusqu'à accepter ce qu'on appelait la version 4, c'est-à-dire qu'il mettait de côté la primauté du politique sur le militaire, c'est-à-dire qu'il répondait en fait à toutes les revendications de Haftar. Actuellement, effectivement, le président du Haut Comité d'État est un frère musulman. C'est un frère musulman alors qu'ils n'ont que 10% des voix. Vous savez, la première des choses qu'il a faites, c'est vraiment une danse nuptiale qui ne s'arrête pas à l'égard de Haftar. C'est-à-dire, il a fait une offre de discussion avec toutes les concessions possibles. Le secrétaire général du Parti des Frères musulmans, il a présenté Haftar comme un héros et ses soldats comme des martyrs. Sauf que Haftar ne veut négocier ni avec eux, ni avec le reste du prisme. C'est là que je dis une mystification. L'autre mystification consiste à présenter Misrata comme étant une citadelle islamiste.
Vous voulez y venir, oui, à Misrata. Oui.
Justement, c'est là la plus grosse des mystifications. Misrata est une ville moderne. L'islam politique est un produit contradictoire de la modernité. Et donc, les élites de l'islam politique sont toutes originaires de Misrata. Sauf que dans la pratique, les islamistes n'ont jamais réussi à faire élire un député à Misrata. Et que dans le conseil municipal, ils ont eu qu'un élu sur 9. Et Misrata n'est pas une ville régie par le système tribal. C'est la ville la plus moderne de Libye. Et c'est pour cela qu'elle a donné aussi l'islam politique. Il y a même, sur le modèle algérien, naissance d'un parti éradicateur, dirigé par l'ancien ministre de l'Intérieur, qui a été un compagnon de route des islamistes, etc. Donc c'est toute cette mystification qui est là autour de Misrata pour justifier justement cet axe-là.
Alors justement, donc on peut rappeler déjà que Misrata est une ville héritière d'une influence turque. Et j'allais vous poser la question, Pierre Vermeuren. Les observateurs mettent souvent en avant l'opposition de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque entre Tripoli d'un côté, Benghazi de l'autre. Est-ce que Misrata peut faire la différence ?
Faire la différence, je ne sais pas. Ça dépend quelles sont les forces qui sont mises en face par les différents partenaires. Ils ont mené des batailles et ils ont montré que c'était des soldats de grande valeur qui étaient capables de conquérir des territoires, y compris assez loin de chez eux, à l'intérieur de l'espace libyen. Donc c'est une force importante qui n'est pas encore engagée. Mais on voit bien que la vraie bataille n'est pas encore engagée puisque les troupes de Haftar stationnent dans les faubourgs, ont même reculé et que les Tripolitains les ont fait reculer. Ils sont très loin de leur base. Alors bien sûr, on peut faire un pont aérien, on peut transférer des milliers d'hommes, des matériels lourds, etc. C'est peut-être ce qui se passe en ce moment, je n'en sais strictement rien. Mais si la grande bataille devait avoir lieu, bien sûr que Misrata serait dans l'affaire et pèserait certainement lourd. Ce que je voulais dire aussi, c'est au fond, l'islam politique, il est des deux côtés. Parce que quand l'Arabie Saoudite soutient le maréchal Haftar, c'est quand même le paradis d'une forme d'islam politique. Hein. Donc, bien sûr, en face, peut-être que les Pire Turcs, même. Qui sont eux-mêmes affaiblis, sont une autre modalité de cette question. En fait, l'islam politique est partout. Je pense que les acteurs qui vont compter, qui vont peser lourd, bon, malheureusement, la Tunisie ne va pas peser lourd, mais elle peut être quand même un agent d'influence, au moins une sorte de modèle. Mais je pense que l'Algérie et l'Italie vont peser lourd parce que il y a eu une tentative de d'effraction, en quelque sorte. Ça devait être la présidentielle algérienne le mois d'avril. Et bon, finalement, elle n'a pas eu lieu pour les raisons qu'on sait, mais l'Algérie est quand même en plein processus d'introspection politique, je sais pas comment il faut dire, de transition. On voit bien qu'il se passe des choses incroyables, que les gens qui dirigeaient le pays se retrouvent plus ou moins au tribunal, ou derrière les barreaux, en tout cas pas pour les officiers supérieurs, mais bon. Et donc, il y avait une fenêtre d'opportunité. Cette fenêtre d'opportunité, elle a été ratée. Est-ce qu'ils vont aller affronter les Tripolitains sous les yeux des Algériens et de l'armée algérienne, qui a transféré des unités sur sa frontière et qui, à mon avis... Alors, évidemment, l'Algérie, elle est dans une position très ambiguë parce que elle est alliée à Moscou, comme Haftar, comme le régime syrien, mais malgré tout, elle a ses propres intérêts. Elle n'a pas intérêt à ce que s'installe un régime qui soit aux ordres des Émirats Arabes Unis ou de l'Égypte à ses portes, qui crée un facteur d'instabilité qui va se répercuter au Sahel. Donc, elle a sa propre géopolitique régionale. Et c'est pareil pour l'Italie. L'Italie a des hommes à Tripoli, les Américains on avait aussi il n'y a pas si longtemps. Donc ça ne va pas être simple. Ça aurait pu être, l'effraction aurait pu marcher. Maintenant, on voit qu'ils ne peuvent pas reculer, ils ne peuvent pas avancer. Donc on est vraiment dans une impasse. Et le réveil de l'Algérie, si c'est le cas, risque de peser lourd. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais voilà, la tentative a raté le 4 avril. Peut-être que Tripoli aurait pu tomber le 15 avril. Ce n'est pas le cas. Voilà, on est dans une situation d'impasse.
Alors la communauté internationale s'évertue à dire que la solution n'est pas militaire en Libye. Qu'est-ce qu'il faut en penser aujourd'hui, Ali Ben Saad et François Burga? Et quel rôle pour l'ONU? Qu'est-ce que l'ONU peut encore faire? Et puis au-delà de ça, qui finalement a intérêt à ce que la situation actuelle se prolonge et qui n'a pas intérêt à ce que ça se prolonge? Ça fait beaucoup de questions, mais voilà, ce sont des fenêtres que je souhaiterais qu'on ouvre. François Burga.
Alors, permettez-moi d'abord juste de souligner les points d'accord profonds avec mes petits camarades aujourd'hui. J'ai bien aimé la formule de Pierre Vermeulen que j'ai moi-même utilisée. L'islam politique, il est partout. Moi, j'ai dit omniprésente diversité des islamistes dans le champ politique arabe après les printemps. Donc, tous les logiciels qui tentent de mobiliser les peurs occidentales sur la thématique « on va vous débarrasser des islamistes » sont des leurres. Mmh. Et ça, il faut le redire. Et il faut dire à quel point il est dommage qu'un monsieur qui a la responsabilité qu'il a, qui est monsieur Le Drian, gobe si naturellement ce genre de chanson. Et sur la capacité des islamistes au sens large ou du courant frériste d'émerger en Libye, moi je voudrais juste rajouter une petite nuance. Les frères musulmans en Libye ont la conscience aiguë, ils me l'ont dit en ces termes-là, qui sont devenus un peu étrangers au pays, parce qu'ils reviennent tous, la violence de la répression sans égale en Libye pendant 42 ans contre le courant des frères musulmans, a fait que tout le leadership des frères musulmans, ce sont des exilés. Ils sont revenus, on les appelle des doubles passeports. Ils ont donc un handicap à remonter. Mais ce handicap, c'est pas de restaurer la crédibilité de l'islam politique, c'est de faire sortir la société libyenne de ce repli que j'ai déjà évoqué, qui est le repli localiste. En Libye, l'exploit serait qu'un candidat, quelle que soit sa couleur politique, et un candidat de gauche ou un candidat anti-frères musulmans n'y parviendrait pas davantage, c'est de faire voter quelqu'un à Tripoli pour un candidat originaire de Benghazi. Après, je veux juste souligner aussi, mais ça répond en partie à votre question, le prisme de l'islam politique dont les Émiratis seraient les pourchasseurs, ça fait quand même doucement rire, parce qu'il y a un autre foyer qui nous permet de savoir ce que font les Émiratis, c'est le Yémen. Au Yémen, comme Haftar en Libye, ils mobilisent des milices qu'on appelle les matralistes, parce qu'ils sont de fabrication saoudienne. C'est l'islam politique saoudien qui a été fabriqué qui est au service de la dictature saoudienne, c'est-à-dire vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur le plan sociétal et adopter des positions extrêmement conservatrices, extrêmement réactionnaires, pourvu que vous cautionnez le leader politique. Il y a un mois, j'ai rencontré des Libyens du Conseil national à Istanbul et leur seule question était de me dire « Pouvez-vous nous expliquer pourquoi votre président soutient des islamistes aussi terribles que les matralistes, alors que nous-mêmes, nous sommes plus nuancés, etc. » Bon, alors après, quelle est la posture de la société internationale? Je dirais qu'un autre travers, nous les Occidentaux, nous sommes des démocraties où les élections ont un poids considérable, nous avons l'œil fixé sur le court terme électoraliste. Mmh. Et c'est ça le problème, le choix que nous ne parvenons pas à faire, c'est le choix noble, le choix politique avec un P majuscule. La Libye ne sera stabilisée que si nous laissons le tissu politique se reconstruire sérieusement, pas en imposant une solution autoritaire nouvelle. Malheureusement, c'est la solution que nous semblons avoir choisi de plus en plus explicitement. Et vous avez vu, on ne l'a pas mentionné, mais que Fayez Sarraj a déjà énoncé des sanctions possibles contre la France, puisqu'une quarantaine de sociétés, eu égard à l'attitude qu'a eu Macron lorsqu'il l'a reçu très récemment, pourrait être destinataire de sanctions, y compris Total.
Je rebondis, puis je parlerai de l'issue, parce que là, moi, je suis optimiste qu'il y ait une issue, mais en dehors du cadrage militaro-politique qui a été fait actuellement. D'abord, effectivement, il faut rappeler qu'une chose, que Haftar s'appuie essentiellement sur ces islamistes, les Metralis, et que ils ont atteint jusqu'au sommet de l'état-major. Alors, il y a aussi des Metralis en Tripoli sur lesquels, d'ailleurs, qui devaient jouer le rôle de cheval de Troie des Saoudiens et des Émiratis pour entrer, et que ils sont en train de sectariser la pratique religieuse. Et
les Metralis, très rapidement, Ali Ben Saad.
Donc, c'est un courant dit quiétiste, c'est-à-dire très rigoureux sur le plan sociétal, etc., et qui s'interdit théoriquement de passer au politique. Sauf que la Libye nous montre que non seulement ils sont dans le politique, ils sont dans le militaire et qu'ils se tapent dessus. Parce que quelles sont les deux milices les plus puissantes ? À l'ouest, c'est une milice Metrali, celle de Qara al-Rada, et c'est la plus puissante milice à Tripoli. Et c'est là que les Saoudiens et les Émiratis se gouraient parce qu'ils pensaient que ça serait leur cheval de Troie. Sauf que le contexte local, politique, etc., et la phobie du retour d'un pouvoir militaire n'ont pas joué dans ce sens. Et de l'autre côté, c'est la milice Tawhid qui a été dissoute officiellement, comme il y a une semaine aussi, Haftar a mis fin aux fonctions du ministre des Affaires religieuses pour un peu l'apparat. Et donc, en fait, à l'Est, contre leur soutien, les maîtres Ali ont eu le monopole des mosquées à Benghazi et dans tout l'Est. Et donc, ils sont en train de sectariser la pratique rituelle et religieuse dans une Libye qui est, comme tout le reste du Maghreb, maléquite, etc. Et d'ailleurs, tous les attentats qui se font à l'Est visent des mosquées. C'est parce que, justement, c'est le lieu du raidissement sociétal, rituel, etc. Et je vous rappelle que le voyage des femmes seules, moins de 60 ans, a été interdit, etc., etc. Alors moi, je voudrais dire que quand même, pour moi, il y a une issue. Cette issue, elle consisterait à mettre tous les acteurs militaires de côté. Ben, vous me diriez que quand même, dans un pays tenu par les milices, etc., eh ben, c'est une fiction, en fait. Quand on regarde à Tripoli, comment, en fonction du contexte politique et géopolitique, le type de milice change. Les milices islamistes, elles étaient dominantes jusqu'en 2007. En fait, ultra-dominantes jusqu'en 2006, jusqu'au retour de Sarraj. Et petit à
17.
Petit...
Hein? 17.
Non, non.
Très rapidement, 2007, parce que 2016, je voudrais ensuite 2016, laisser la conclusion à Pierre Vermeeren.
Et Haftar n'a aucune force militaire. Savez-vous, donc, en fait, comment il a occupé les installations pétrolières qui lui ont donné toute sa légitimité ? C'était pendant que les Misratis se battaient à Sirte. Et vous savez que les petites brigades de défense de Benghazi ont réussi à les lui reprendre. Et pendant 2 semaines, il les avait pas eu. Il a fallu que les Émiratis interviennent par leur aviation. Donc, s'il y a une réelle volonté internationale, hein, et un vrai travail de reconstitution du tissu social et politique, les seigneurs militaires peuvent facilement être isolés, s'aligner, etc., etc.
Alors, je reprends la parole Ali Ben Saad, juste parce que malheureusement le temps est compté. Je pose la question à Pierre Vermeeren pour savoir s'il partage ce que vous venez de dire. Solution à la crise libyenne, mettre de côté tous les acteurs militaires ? Pierre Vermeeren.
Oui, je pense que d'ailleurs un des objectifs de cette offensive militaire, alors on pourrait se dire que c'est une affaire libyenne, mais on a bien compris que c'est une affaire internationale, pilotée par l'Égypte et derrière elle l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Et au fond, on se dit que derrière, il y a la révolution tunisienne, hein, il y a la République tunisienne, parce qu'au fond, ce modèle qui a tenté d'émerger depuis 2011, c'est quelque chose qui profondément dérange. Et on voit que là, il se pose une question maghrébine. Est-ce que l'Algérie va être... avoir les moyens de dire non, parce que la Libye, elle a les moyens. Il y a le pétrole. C'est pas un pays dépendant. La Tunisie, elle est extrêmement faible parce qu'elle n'a pas cette ressource. La Libye a des moyens considérables, vous l'avez dit pour commencer. Et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles on devrait pouvoir arriver à un accord politique et à une entente sur un modèle fédéral ou confédéral, je ne sais pas. Ça, c'est l'utopie politique. Elle est réalisable, mais évidemment, est-ce que le Maghreb va être capable d'affronter au fond ses démons et aussi ses adversaires extérieurs qui veulent finalement le faire rentrer dans le rang. Bien sûr que les moyens financiers dont disposent les puissances du Golfe permettent d'imposer, mais on voit qu'en face, il y a, entre les ressources libyennes et les ressources algériennes, il y a le moyen d'inventer un nouveau modèle politique. Si ça se confirme à Alger qu'on va vers une ouverture politique, il faut peut-être être très prudent, mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est envisageable. On peut espérer. Encore faudrait-il que l'Union européenne souffle à fond dans cette direction, ce qui n'est pas encore le cas, vu ses divisions.
On reparlera de la Libye. Merci. Merci à nos invités qui étaient, je le rappelle, depuis les studios de nos confrères de France Bleu, Provence, Aix-en-Provence, Ali Ben Saad, professeur des universités à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, et François Burga, islamologue et politologue, directeur émérite de recherche au CNRS et à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, et auteur de Comprendre l'islam politique aux éditions La Découverte, et en studio à Paris, Pierre Vermeuren, professeur d'histoire du Maghreb contemporain à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, auteur de Dissidents du Maghreb aux éditions Belin, et sur un tout autre registre, un ouvrage qui vient de paraître, La France qui déclasse. Donc de Pierre Vermeuren, Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacré à la Russie. À demain.